on a décidé de ne pas faire d'anesthésie générale et de faire que des anesthésies loco-régionales pour minimiser un peu les risques. Et on a décidé aussi de faire des chirurgies où il y avait le moins de saignement possible, parce qu'il y a aussi un problème de banque du sang qui n'existe pas vraiment et qu'un proche doit donner son sang pour remplacer une poche de sang qu'on vous aurait donnée, et ce qui n'est pas toujours évident à gérer.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les maux qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisserre et Cécile, et le quotidien 24 heures. Nous voilà déjà en 2024, mais aussi à la fin de la seconde saison de notre podcast. Alors, pour la clôturer, un épisode un peu spécial qui va nous emmener sous d'autres latitudes. Vous allez entendre le récit d'une aventure collective qui a réuni médecins, chirurgiens, physiothérapeutes, infirmières et infirmiers pendant une semaine au cœur des montagnes camerounaises à Bafoussam. Leur mission, opérer une trentaine de patients et patientes atteints d'infections orthopédiques en collaboration avec l'équipe locale. C'est le docteur Eric Choudja Ouabo, chirurgien orthopédique à la clinique Boisserre, qui est l'initiateur de ce projet.
Je suis originaire du Cameroun. Et j'ai toujours voulu aider, faire quelque chose sur place. Et donc aider, comment aider au mieux. Donc je me suis dit, dans le médical. Après, c'est toujours un peu compliqué d'arriver sur place, de faire des choses quand on ne connaît pas très bien, quand on ne connaît pas le système. L'association des médecins d'origine camerounaise en Suisse m'a proposé d'aller opérer au Cameroun sur une mission. Et je lui ai dit, oui, très bien, mais on n'y va pas comme ça. Opérer, c'est assez particulier. Je ne peux pas juste m'installer et travailler. J'ai besoin d'une équipe. J'ai besoin des anesthésistes, j'ai besoin des collègues. Puis j'ai besoin que ce soit structuré, qu'il y ait un suivi. Donc, de fil en aiguille, j'en ai parlé à plusieurs collègues. Je me suis retrouvé avec 6 collègues chirurgiens, un anesthésiste. Et ensuite, on a formé une équipe d'instrumentistes qui étaient intéressés, 2 instrumentistes, 2 infirmiers anesthésistes, 2 physios, finalement 17 personnes.
17 personnes qu'il va falloir acheminer à bon port avec tout l'équipement et en passant quelques obstacles administratifs.
Il y a un nouvel hôpital qui s'est construit à Bafoussam, tout neuf. Donc à Bafoussam, qui est une grande ville dans les montagnes, dans l'ouest du Cameroun. Et les autorités, ils voulaient promouvoir un peu cet hôpital et ils nous ont proposé d'aller là finalement. Et donc on s'est retrouvé avec un plateau technique qui était correct, qui permettait d'opérer dans les bonnes conditions. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de monter une mission comme ça parce qu'il y a toute une logistique derrière. Il faut les billets d'avion, il faut les visas, les vaccinations, il faut héberger les gens, il faut à manger, il faut le transport et tout ça. Donc, je me suis un peu improvisé coordonnateur de projets humanitaires. Et on a, au fur et à mesure, découvert les différentes difficultés. Les autorisations, par exemple, pour faire sortir les médicaments de Suisse, la morphine de Suisse, pour la faire arriver au Cameroun. Donc le département fédéral des affaires étrangères nous a aussi aidés parce que l'ambassade de la Suisse au Cameroun, via la valise diplomatique, a transporté notre morphine, ce qui nous a facilité les choses un peu. Donc il y avait toutes ces choses à mettre en place et ça s'est goupillé comme ça progressivement.
Dans l'équipe, il y avait aussi le docteur Patrick Vienne, chirurgien orthopédique spécialiste du pied à la clinique Boissière.
On a pris quand même pas mal de matériel avec nous, du matériel chirurgical, des vis, des plaques, donc tout ce qui est utile pour réaliser soit des ostéosynthèses, des corrections d'os, des corrections d'articulation, des arthrodèses. C'est un petit peu les cas qu'on prévoyait faire sur place. Il y a énormément d'accidents de la circulation, de la voie publique, avec des gens qui n'ont pas pu être traités en phase aiguë, qui développent des fractures qui ne sont pas guéries ou qui sont guéries dans des fausses positions, qui développent de l'arthrose si c'est une fracture intra-articulaire, donc avec des arthroses après souvent déformées en plus. Donc si le traitement initial n'a pas été fait, n'a pas pu être fait correctement, c'est sûr que les séquelles après sont plus difficiles à traiter aussi. Mais c'est surtout des séquelles d'accidents de la voie publique et puis aussi des déformations dues à des maladies infantiles. On a pas mal quand même de paralysie aussi encore chez des jeunes qui sont dues à des vaccinations par exemple, avec des lésions du nerf sciatique qui provoquent après une paralysie partielle de la jambe avec des déformations au niveau du pied et qui rendent la marche difficile. Donc c'est surtout ce genre de pathologie qu'on a rencontré. La majeure partie des patients étaient assez jeunes, et puis on avait quand même quelques patients, je dirais autour de 50-60 ans comme ça. Alors là, plutôt avec des arthroses, des séquelles de traumatismes anciens, qui ont développé des arthroses, et puis comme on sait que l'arthrose, elle progresse avec le temps, c'est à partir de cet âge-là que ça devient vraiment symptomatique, en fait.
Dans cette mission, il fallait aussi définir qui pourrait bénéficier des chirurgies. Toute une logistique qui a commencé bien avant le départ.
Avec les collègues et surtout notre anesthésiste, on a défini en amont quel type de procédure chirurgicale était le moins risqué possible sur place, en sachant qu'il fallait qu'on compte sur les collègues sur place pour assurer le suivi et que ça n'allait pas être assuré directement par nous-mêmes. Donc déjà, sur le plan anesthésique, on a décidé de ne pas faire d'anesthésie générale et de faire que des anesthésies loco-régionales pour minimiser un peu les risques. Et on a décidé aussi de faire des chirurgies où il y avait le moins de saignement possible, parce qu'il y a aussi un problème de banque du sang qui n'existe pas vraiment et qu'un proche doit donner son sang pour remplacer une poche de sang qu'on vous aurait donnée, et ce qui n'est pas toujours évident à gérer. On est déjà parti sur ces bases-là. Et ensuite, avec les collègues sur place, une fois qu'on avait établi notre liste, on a dit, vous allez lancer un appel. Il y a eu des appels, en fait, à la radio locale, en langue locale, en français, parfois en anglais, qui annonçait notre venue et qui demandait aux gens qui avaient telle ou telle pathologie de se présenter à l'hôpital auprès d'un médecin qui faisait un premier tri. On avait un groupe WhatsApp dans lequel on discutait des cas. Ensuite, on proposait de faire soit des radios à l'avance pour affiner le diagnostic. On a vu à peu près 150 patients en consultation. On a confirmé le diagnostic pour ceux où on avait déjà un peu un doute ou des questions. Et puis sur cette base-là, on a fait notre programme opératoire de la semaine.
On a fait quand même des choses assez spectaculaires. Il y avait un petit jeune là qui de 10-12 ans qui avait eu une fracture du genou, chez qui on avait quelqu'un là-bas avait mis une broche métallique à travers le genou, donc avait bloqué l'articulation. Alors je sais pas, ils avaient peut-être pas de contrôle radiologique et tout, et il avait vraiment son genou bloqué depuis plusieurs mois à cause de cette broche. Et le simple fait de lui retirer cette broche, du jour au lendemain, il a pu mobiliser son genou. Et il fallait voir la joie dans les yeux de cet enfant et de ses parents et tout, pour un geste hyper simple en fait, mais qui a été très efficace. Donc ça, c'était un moment assez particulier. Mais tous les patients en fait qu'on a opérés, ils ont été très 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 reconnaissants. Donc c'est sûr qu'ils nous couvrent de prières encore tous les jours depuis qu'on était là-bas en fait. Quoi. Ouais.
J'avais l'impression, chaque fois qu'on s'occupait d'un patient, que c'était quelqu'un de ma famille, quelqu'un que je connaissais personnellement, alors que je ne les avais jamais vus. Donc ça, c'était quelque chose aussi de très fort et de très particulier. Aussi le retour des patients. Comme on dit, en fait, en Afrique, les gens ne sont pas très démonstratifs quand il faut exprimer les sentiments, mais par contre, les gens sont très reconnaissants. Et ça, par contre, ils savent le montrer. Par des chants, par des remerciements appuyés, par des prières souvent, parce que les gens sont très croyants. Et ça, par contre, c'était vraiment très touchant de voir, en fait, rien que le fait de faire une consultation, de donner un avis concret, on avait déjà l'impression que les gens allaient mieux, sans avoir fait plus. Et donc, c'était quelque chose de vraiment très profond. Et on avait des situations vraiment très touchantes où on savait qu'on les a aidés. Presque, quelquefois, qu'on a même changé leur vie. Chez certains jeunes adolescents qui avaient du mal à marcher, chez qui on a fait des chirurgies pour leur redonner une marche presque normale, ça change leur vie, le regard des autres, parce que le handicap, c'est un problème en Afrique, et les gens sont mal vus, presque exclus des fois, et ont du mal à trouver un travail et à trouver leur place dans la société. Et on savait, dans certaines situations, qu'on avait presque changé leur vie. Et donc ça, c'est quelque chose de très touchant.
Pour ceux qui ont été choisis pour l'opération, c'est sûr qu'il y a quand même un lien qui s'est développé, déjà avec eux, et puis surtout avec la famille. Donc ils étaient tous très bien entourés, parce que là-bas, c'est obligatoire. Hein, si vous allez vous rendre à l'hôpital, il n'y a personne qui va vous faire à manger, il n'y a personne qui va changer les draps de lit, donc il faut même amener les draps de lit avec soi. Et puis la famille, elle est là pour s'occuper de leur patient. Leur faire à manger, donc là ils étaient très bien entourés. On a quand même vraiment pu tisser des liens avec les patients et avec la famille, parce que c'est des gens qui sont restés quand même 3-4 jours, jusqu'à une semaine même, hospitalisés, et on allait faire des visites tous les jours. Donc là on a quand même réussi à justement tisser des liens, échanger ou obtenir leur numéro de téléphone, et puis pour pouvoir après quand même garder un contact. Dans certaines interventions assez complexes du pied, où il y a des pansements à réaliser pour s'assurer de la bonne guérison des plaies, donc le suivi est vraiment très important, et d'avoir un contact pour pouvoir au moins communiquer, qui nous envoie une photo de l'évolution et se renseigner un petit peu sur comment vont les gens, ça c'était important. En tout cas, avec 3 patients, on a eu des contacts assez réguliers après, par la suite, par l'intermédiaire soit de leurs parents ou directement avec le patient, qui nous ont envoyé des photos, des radiographies qui ont été effectuées. Et on sait qu'en orthopédie, surtout dans le genre d'intervention qu'on a fait, pour avoir le résultat final, il faut à peu près 2 ans. Donc là, on n'est encore pas complètement à 2 ans. On va les recontacter pour vraiment faire un bilan aussi à ce moment-là. Voilà, bonjour Madame Boug, Odile. Ça me fait vraiment très plaisir d'avoir de vos nouvelles depuis notre passage à Bafoussam. J'espère que toute la famille se porte bien et que vous allez bien aussi. Actuellement, comment vous êtes avec votre cheville?
Bonjour docteur. Comme vous nous avez opéré là, ça va un peu bien maintenant. Je vous remercie de l'opération que vous avez très bien fait là. Maintenant, je me sens bien. Grand, grand, grand merci.
Bonjour Fadil. Voilà, c'est le docteur Vienne. Patrick, si tu pouvais en quelques mots peut-être me raconter un petit peu ta situation avant notre rencontre au Cameroun. Comment tu vivais avec ton problème de pied, comment se passait ta vie au quotidien? Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu ressens quand même une petite amélioration, même si le stade final n'est pas encore atteint?
Oui, bonsoir Monsieur Viand, comment allez-vous? Je vais très bien. Depuis tout petit que j'ai eu ces problèmes au niveau de ma jambe, je ne me faisais pas confiance en fait. Avant l'intervention, j'avais un tout petit peu peur, vu que c'était ma toute première fois d'être dans ce genre de situation. Bon, et après l'intervention, maintenant, je suis très content et je me suis encore fait confiance, vu que j'avais perdu cette confiance depuis. Aussi, j'ai aussi amélioré la marche. Je ressens maintenant ma jambe. Puisque bien avant, je ne ressentais pas vraiment ma jambe. Je suis très content vraiment d'avoir fait cette intervention avec vous. Merci beaucoup.
Travailler au Cameroun, c'est aussi faire face à une autre réalité, et notamment celle de l'inaccessibilité aux soins.
Il n'y a que peu de gens qui ont une couverture d'assurance, je pense entre 10 et 15% de la population. Le reste des gens, en fait, ils doivent payer pour le moindre soin. Il faut imaginer qu'un scanner, par exemple, au Cameroun, c'est de l'ordre de 100 francs. et que le salaire moyen est de 250 francs, 300 francs. Donc rien qu'un scanner, c'est le tiers du salaire, en sachant que faire un bilan, un examen, c'est pas juste un scanner, c'est bien plus que ça. Donc rien qu'une consultation et faire un bilan, c'est déjà le salaire mensuel d'une personne. Donc c'est déjà la première difficulté qui fait que les gens ont du mal à avoir accès à des soins un peu plus complexes. Puis l'autre chose aussi, c'est que oui, bien sûr, il y a des plateaux techniques, mais pas partout. Et il y a aussi la difficulté pour certains patients qui sont des zones un peu plus reculées d'accéder à ces plateaux techniques. Il y a la difficulté pour certains médecins sur place, des fois chirurgiens, qui veulent bien appliquer certaines techniques qu'ils ont apprises, mais qui n'ont pas le matériel adéquat, où le patient n'est pas capable d'acheter ce qu'il faut exactement pour faire le bon traitement. Et finalement, ça crée des conditions de prise en charge qui ne sont pas vraiment adéquates. Mais on s'est bien rendu compte que sur place, avec peu de choses et avec de la rigueur, on pouvait faire beaucoup de choses.
30 personnes ont ainsi pu être opérées par l'équipe suisse. Et l'un des soucis du docteur Shuja était de surtout pas arriver en position de sauveur.
Moi, je suis d'origine camerounaise, même si je ne vis pas là-bas, je connais les mentalités. Et l'attitude que les gens peuvent avoir quand on arrive comme ça, un peu comme des sauveurs. Mon nom de famille, déjà, a aidé parce que quand les gens sur place entendaient mon nom, ils se disaient « Ah, c'est quelqu'un de chez nous ». Et donc, ça permettait de faire le lien. Et il y avait aussi beaucoup de non-dits. En Afrique, il y a aussi beaucoup de choses qui sont non-verbales. Ici, en Europe, on est beaucoup plus dans la communication. On exprime les choses, on le dit. Et donc, je faisais un peu le pont parce que je sentais quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, je parlais rapidement avec les collègues au Cameroun, les Camerounais. Et ça me permettait de dire aux autres un peu ce qui n'allait pas et puis vice-versa. En trouvant la bonne manière de le faire, ce n'est pas toujours évident, mais on a pu comme ça. Je pense que le fait que je sois originaire de là-bas, ça a beaucoup aidé pour qu'en si peu de temps, on arrive à former une équipe et travailler ensemble. On est arrivé aussi avec le SwissMed, c'est-à-dire qu'on veut bien faire, on veut que les choses soient faites correctement. Qu'il y ait, par exemple, dans le bloc opératoire, une checklist opératoire, des procédures à respecter, une propreté qui est claire et qui est connue de nous tous. On n'a pas besoin de se parler pour travailler. Pour nous, c'était très clair. Et il y a plein de choses comme ça, où par exemple, au bloc opératoire, je prenais le temps, moi, en tant que chirurgien, de nettoyer la jambe du patient, la laver moi-même pendant presque 20 minutes et de faire ensuite le rasage pour l'opération, ce qui étonnait les collègues là-bas de se dire « Mais comment ça se fait que ce soit le médecin qui nettoie la jambe, qui la rase, qui prend le temps pour la préparer ?» Et pour eux, c'était presque choquant que ce soit moi qui le fasse. Alors que moi, je ne le prenais pas comme ça. Ici, c'est comme ça, on prêche par l'exemple, le responsable, le chef, il doit montrer comment il faut faire. En tout cas, nous, c'est notre philosophie en chirurgie. On ne peut pas se plaindre si on n'a pas montré comment on voulait que les choses soient faites. Et il y avait ces petites choses comme ça qui créaient un peu de l'étonnement chez nos collègues sur place.
Je pense qu'il ne faut pas vouloir comparer les deux systèmes. Une fois qu'on est là-bas, il faut essayer de s'adapter le mieux possible à ce qu'ils ont sur place. Et puis surtout, les faire participer, en fait. Pas être là et tout faire pour eux, mais essayer de les faire participer, en tout cas, chacun à son niveau, à la mission. Donc, on avait des infirmières avec nous aussi, on avait des physiothérapeutes, et on a fait participer aussi les infirmières sur place, les physiothérapeutes qui étaient là, aux soins des patients après. Là, on a bien réussi, je pense. Tout le monde a été bien pris en compte et a bien participé aussi sur place.
Mais une mission de ce type, c'est aussi et surtout une aventure humaine et son lot d'anecdotes parfois cocasses.
Malgré toute notre préparation très très suisse, on s'est bien préparé, on avait fait nos valises, on avait tout, on avait nos autorisations, on avait nos vaccins, on était prêts. Et comme vous savez, en orthopédie, dans la plupart des situations, quand on opère des membres inférieurs, il faut utiliser des cannes. Mais on a pensé à tout sauf aux cannes. Donc on n'avait pas de canne pour les patients et on s'est retrouvé très embêté quand on a commencé nos premières opérations. Sur le chemin de l'hôpital, on partait de notre hôtel le lendemain, on a vu des cannes auprès d'une mama qui vendait des cacahuètes dans le marché. Donc on s'est arrêté, on est allé vers elle, on lui a dit « Mais d'où viennent ces cannes ?» Elle nous a dit « Mais moi j'en ai, mais j'ai aussi des copines dans le marché qui ont des cannes. » Donc on s'est retrouvé, elle allait récolter toutes les cannes un peu de couleurs différentes, de tailles différentes dans le marché. Et on s'est retrouvé avec une trentaine de paires de cannes qu'on a payées à peu près 6 francs la paire de cannes. Ensuite, elles nous les ont nettoyées, lavées. On s'est retrouvé avec des cannes finalement de seconde main qui venaient d'Europe, qui arrivent en fait en Afrique dans des conteneurs dans lesquels il y a un tout et un tout venant, des cannes et tout ce que vous voulez, et qui se retrouvent sur des marchés où on vend des cacahuètes, des bananes, des avocats. Et donc, on s'est retrouvé finalement avec nos cannes qui ont aidé nos patients. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez drôle et marrant.
Pour le docteur Vienne, c'est une expérience à poursuivre.
On va essayer d'organiser différemment, justement, soit de faire venir quelqu'un avant ou d'aller peut-être un petit peu sur place déjà pour sélectionner les patients. Ça nous a pris quand même pas mal de temps et puis je pense qu'on pourrait être un peu plus efficace de ce côté-là. Et puis surtout après, une fois qu'on a sélectionné les patients, s'il y a du matériel à apporter, on va être encore plus précis avec le matériel qu'on va pouvoir prendre avec. Donc on ne peut que s'améliorer encore, c'est sûr.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve après une petite pause hivernale au mois de mars.